Mise en route des systèmes informatisés. Lancement de la causerie en mode confiné. Accrochez-vous, pandémie ou pas, votre émission est là.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu au 102.2 sur la région lyonnaise et sur radiocanu.org partout ailleurs. Donc 22h, c'est l'heure de la causerie. Ce soir, petite équipe, il y a Fab.
Bonsoir, et Jean-Yves qui vient de faire l'ouverture et nous ne serons que tous les deux.
C'est ça. Voilà, et ben avant de commencer, comme à notre habitude, on va évidemment vous rappeler comment nous joindre. Ça se passe par mail, c'est à lacauseriecanu@gmail.com, la causerie canu en minuscule et tout attaché, donc lacauseriecanu@gmail.com. Si vous voulez écouter les podcasts de toutes les émissions, parce que là on est quand même à la 300 quelque chose, je crois,
82 ou 83, je sais plus.
Donc si vous voulez vous taper toutes les autres avant, c'est sur le blog de la causerie, donc c'est blogs au pluriel, donc blogs. radiocanu.org/lacauserie.
Et d'ailleurs, toi qui nous écoutes, ne nous dis pas que tu n'as pas le temps de nous réécouter, car il y a confinement. Donc c'est pour ça qu'on est dans ces conditions un peu étonnantes. Ah, c'est couvre-feu, pas confinement, on me fait signe dans l'oreillette. Et que donc du coup, tu as le temps de réécouter des émissions de la causerie si tu as envie, parce que bon, t'as a priori rien à faire après 18h.
Oui, bien sûr, ce que leur... Oui, tout à fait, bien sûr. Évidemment, les gens n'ont que ça à faire. On va commencer. On a deux sujets ce soir et c'est toi, Fab, qui commence en nous emmenant au Pérou, si je ne me trompe pas.
Ouais, tout à fait. Je vais aller faire un petit tour au Pérou avec vous, mais pas forcément pour vous parler de quelque chose de très joyeux, parce qu'on aurait pu se dire, tiens, il veut nous faire voyager, découvrir ce beau pays qu'est le Pérou. Mais on va découvrir une des facettes de ce pays qui est pas la plus sympathique. Mais n'empêche que, des fois, il faut s'y coller. Et on va notamment parler ce soir du combat des femmes quechua. Qui attendent la justice. Alors juste quand même, je fais une petite parenthèse, il est très habituel chez les sociétés occidentales de prendre des noms comme ça, de tribus, d'ethnies, pour en faire des voitures, des tentes ou des choses comme ça. C'est totalement dégueulasse. Donc oui, les Quechua, c'est pas juste le truc de chez la marque bleue française, c'est en fait au départ une ethnie qui existe et qui vit au Pérou. Voilà. Et c'est même ce qu'on appelle un peuple premier. Pour refixer un peu les choses. Alors avant de vous parler des Quechua, je vais d'abord vous parler d'Alberto Fujimori. Et là, vous me dites, mais qui est Alberto Fujimori ?
Mais qui est Alberto Fujimori ?
Et il le fait bien, hein, franchement. Alors, Alberto Fujimori, il est né le 28 juillet 1938 à Lima. Donc Lima, c'est la capitale du Pérou. C'est un homme d'État péruvien d'origine japonaise et il est président de la République du Pérou du 28 juillet 1990 au 22 novembre 2000. Alors sa vision de la politique, elle est brutale, directe et peu en rapport avec les respects stricts des droits humains, hein, très, très clair. Hein. Mais, je le rappelle, Fujimori n'a jamais été un autocrate au sens premier du terme parce qu'il a été légalement élu.
Okay.
Voilà, c'est ça qui est important de retenir. Et surtout, il n'a jamais essayé de privatiser le pouvoir. même s'il a tenté un petit peu de réécrire la Constitution à un moment donné. Mais globalement, en fait, il a toujours fait sa carrière politique en étant élu et soutenu par une partie de la population. Mais ça n'empêche pas que c'était quelqu'un de brutal. Enfin voilà, il faut le dire clairement. Alors on va rappeler que Fujimori, il a mis fin aux insurrections armées conduites par le Sentier Lumineux, qui était une inspiration maoïste, marxiste-léniniste, et le groupe Tupac Amaru, qui avait plutôt une tradition socialiste. Donc en fait, c'était une guérilla qui durait au Pérou depuis une vingtaine d'années, qui opposait en fait les tenants du libéralisme économique contre ceux qui voulaient en fait collectiviser les terres. Voilà. Et surtout, sous-jacent à tout ça, il y avait la défense des peuples premiers qui étaient opprimés par les descendants des conquistadors qui parlaient le castillan, c'est-à-dire le fameux espagnol des conquistadors. Voilà, donc c'est une bataille qui est plus complexe, simplement dire il y aurait eu la gauche d'un côté armée et de l'autre côté la droite armée. C'est plus compliqué que ça. Donc il a rétabli la stabilité économique du pays sous la tutelle du FMI. Hein, voilà, on sait bien que le FMI,
Il
c'est
est toujours dans les bons plans.
une organisation qui est totalement Fonds mondial. Le Fonds monétaire international, pardon, qui est une sorte de grand, de, je sais pas comment dire, régulateur de l'économie mondiale, mais en fait son but c'est surtout de maintenir les monnaies d'échange au plus haut, quitte à détruire les petits pays s'il y a besoin. Voilà, hein, pour être clair. Et il a été aidé par les USA et l'Europe, hein, parce que manquait plus que eux pour leur équation pour que ça fasse cool, hein, enfin que nous, donc du coup, bah, qui ont gentiment fermé les yeux sur ces méthodes, arrestations arbitraires, massacres, exécutions de familles, des familles des membres du Sentier Lumineux, déportation de population, enfin que des choses très fortes. Sympathique, hein, comme on peut le voir, quand ils n'ont pas carrément aidé en livrant des armes ou en finançant carrément les services secrets, c'est notamment le cas de la CIA qui a financé très largement les services secrets de l'époque Fujimori au Pérou. Voilà. Sans surprise, hein, sa présidence, elle est marquée par des affaires de corruption. Parce qu'on a remarqué quand même que souvent, les gens qui étaient comme ça, ils étaient souvent corrompus. C'est étonnant, mais voilà. Face à la contestation de sa réélection en 2000, il a fui au Japon. Voilà, parce qu'en fait il avait été officiellement réélu, mais en fait tout le monde s'est rendu compte qu'il avait acheté des voix et qu'il y a carrément des bureaux de vote qui avaient été truqués, donc ça s'est un peu vu. Donc ils ont un peu contesté le fait qu'il soit réélu, parce qu'il ne l'était pas dans les faits. Le Japon va lui offrir l'asile avec l'appui d'un certain Shinzo Abe,
Oh,
qui est
tiens.
actuellement Premier ministre du Japon.
Un homme aussi très 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 à droite.
Ouais, puis très sympa. A priori, Shinzo, il est très sympa,
Oui, c'est ça.
d'après Fujimori.
Oui,
Enfin, voilà.
oui, oui,
Voilà. Donc, il a l'honneur d'être classé, Fujimori, Alberto Fujimori, parmi les 10 anciens chefs d'État les plus corrompus du monde par l'association Transparency International en 2004. C'est bien quand même, il a gagné un truc dans sa vie. C'est dire quand même le grand sens de l'honneur et de la probité qui habite cet homme, hein, quand même globalement. C'est-à-dire quand on est mis en accusation, on fuit et en plus, on ment tout le temps. Donc voilà. Dans les années 2000 à 2010, plusieurs charniers sont découverts au Pérou. Ça a été d'ailleurs pour les Péruviens un grand choc, parce que autant on savait qu'il y avait effectivement eu des tensions très fortes dans la période de guérilla, autant découvrir des charniers. Charniers, c'est un sens quand même assez particulier. Ça a beaucoup remué au Pérou. Alors, ils ne sont pas tous le fait de l'armée régulière de Fujimori. Il y a aussi des charniers qui sont le fait de la guérilla, faut le dire. Hein. C'est pas non plus faux, c'est documenté. Mais c'est surtout en fait que ça a ouvert la parole. Et donc il y a eu beaucoup de témoignages qui ont été recueillis sur les exactions de l'armée et des milices paramilitaires attachées au pouvoir de Fujimori durant ses mandats. C'est ce qui a un peu fait exploser tout ça. On parle donc de tueries de masse perpétrées sous couvert d'actions d'anti-guérilla, de viols utilisés comme armes de guerre et sur ordre, de déplacements de population sur des terres non cultivables avec interdiction d'en sortir, de villages entiers rasés et détruits. Certains parlent d'utilisation de napalm, et là, ça n'a malheureusement pas été totalement documenté, mais vu les témoignages, on peut se dire que oui, quand des gens parlent d'un hélicoptère qui lance quelque chose et que le village prend feu, ça ressemble grandement à du napalm. Donc accusé d'avoir permis les arrestations et les assassinats de milliers de Péruviens innocents, d'avoir miné les droits et libertés individuelles au profit de l'armée, Fujimori est mis en examen après que les rapports de la commission Vérité et Réconciliation, qui a été initiée après son départ, démontrent en 2003 que les forces armées péruviennes sont coupables de la destruction de villages et de meurtres de paysans suspectés d'aider les terroristes. Voilà, c'est comme ça que c'était présenté. D'ailleurs, on va faire une parenthèse, c'est exactement la doctrine qui était faite par George Bush en Irak, qui disait qu'il pouvait bombarder des villages quand ces villages avaient aidé des terroristes. Donc on voit que c'est pas détaché finalement de ce que peuvent faire aussi de ce qu'on appelle des démocraties.
Ah
Oui,
mais oui,
c'est. Non,
je
mais
pense.
c'est
Oui,
juste pour
oui, oui.
expliquer que Fujimori, c'est pas un monstre sorti du fond des âges. C'est un homme qui a
Oui.
été élu et qui était à la tête d'un pays démocratiquement, mais qui, voilà. Les plaintes contre Fujimori, la plainte, pardon, contre Fujimori, elle va porter sur plusieurs points, mais les principaux sont le meurtre pour le massacre de Barrios Altos en 1991 et la mort de 15 personnes dînant dans un quartier pauvre de Lima, dont un enfant de 8 ans. Ils ont été tués par un escadron de la mort nommé Grupo Colina, le groupe des collines, et qui aurait agi sur ordre de Montesinos, pardon, qui était le bras droit de Fujimori. Voilà. Le meurtre pour le massacre de l'université de la Cantuta en 1992 et la mort de 9 étudiants et d'un professeur soupçonné d'appartenir au Sentier Lumineux, commis par le même escadron Grupo Colina. Et le Congrès a voté également à l'unanimité l'accusation contre Fujimori d'être responsable de la détention et de la disparition de 67 étudiants de la ville andine de Huancayo et la disparition de plusieurs habitants de la ville côtière de Chimboté, pardon, pendant les années 90. Voilà.
Ok.
Donc c'est là-dessus que les accusations ont porté, mais très clairement est posée dans l'idée de parler plus largement de ce qu'a fait Fujimori. Évidemment, ça c'est l'acte d'accusation, mais d'autres témoignages vont venir accentuer un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc il est condamné du coup le 7 avril 2009 à 25 ans de prison par le tribunal de Lima pour violation des droits de l'homme, hein, pendant sa présidence, et c'est une peine qui a été confirmée par la Cour suprême du pays le 2 janvier 2010. Alors il faut savoir que les Fujimoristes, qui existent toujours, hein, qui sont les gens du parti qui a fondé Fujimori, eux, ils ont tout fait pour essayer de contrer cette condamnation, en expliquant même qu'il était anticonstitutionnel de faire condamner un ancien président.
Ah,
Vous
tiens.
voyez, ça doit rappeler des choses ici où on ouvre à des anciens présidents le 20h de TF1 pour qu'ils viennent nous expliquer pourquoi ils n'ont pas fauté. Vous voyez, alors c'est pas les mêmes ordres d'idées, mais on voit quand même que dans la logique, il y a quelque chose qui se tient, malheureusement. Donc il est également condamné à 7 ans et demi de prison pour le détournement de fonds avec lequel il va payer Vladimiro Montesinos, hein, le chef des services de renseignement, qui était donc payé et par Fujimori et a priori un petit peu beaucoup par la CIA. Hein, donc voilà. Il est par ailleurs reconnu coupable le 30 septembre 2009 d'avoir payé les députés d'opposition et des journalistes et de s'être livré à des mises sur écoute téléphonique d'opposants, de journalistes et d'hommes d'affaires, y compris Mario Vargas Llosa et Javier Pérez de Cuellar, et sont ses opposants politiques, et qui ont tous les deux été ensuite à la tête du pays. Pour ces motifs, il est condamné à 6 ans de prison. Voilà.
OK.
Alors, il faut savoir qu'au Pérou, les peines ne s'additionnent pas, parce que c'est plutôt quelque chose d'assez positif, parce que, enfin là, de mon point de vue un petit peu anticarcéral, je me dis que c'est bien quand on se dit, bah, on va prendre la plus longue des peines, quand même, plutôt que de tout additionner. Donc, il ne devrait effectuer que la plus longue des peines de prison, hein, c'est-à-dire les 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Voilà, pour être clair. Donc il est également condamné en 2015 à 8 ans de prison pour détournement de fonds. Et cette peine n'est pas cumulable avec la précédente parce qu'en fait, elle est sur une autre affaire. Donc c'est-à-dire que là, par contre, il y a encore
Ok,
8 ans à
d'accord.
faire parce que c'est un autre volet, en fait. Alors je vous rassure, il n'a pas été envoyé dans une prison sordide, hein, mais placé dans une prison dont 10 000 mètres carrés lui sont alloués, hein, parce qu'il avait besoin de respirer, ce brave monsieur, à son seul usage, hein. Il disposait aussi, hein, d'un jardin planté de 5 000 rosiers, parce qu'il est fan de rosiers, et d'une clinique privée, au cas où il tombe malade, hein, parce qu'on ne sait jamais. Alors, clinique privée qui contenait à elle seule une trentaine de médecins, infirmiers ou autres pour lui tout seul, hein, quand même. Et il faut savoir que le Pérou est un des pays où l'accès aux soins est le plus difficile. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose d'assez hallucinant. Et d'un atelier de peinture, parce qu'il aimait peindre. Et aussi, étonnamment, d'un salon de réception lui permettant de recevoir des visites sans restriction. Voilà, donc on voit que il a eu une sorte de peine très aménagée,
Très
hein, quand même,
privilégié,
et très
quoi.
privilégiée. Donc le 24 décembre 2017, le président Pedro Pablo Kuczynski, hein, qui était à l'époque à la tête du Pérou, qui a échappé en fait à une procédure de destitution qui a été déposée par les Fujimoristes. Donc en fait, il joue un petit peu son avenir
Ouais.
politique. Il va en fait accepter, contrairement à ses promesses électorales, hein, il avait promis de pas le faire, une grâce présidentielle humanitaire pour Fujimori, en raison notamment de la dégradation de son état de santé. C'est marrant quand même, tous ces despotes qui se retrouvent derrière les barreaux et qui tombent malades. Enfin, c'est quelque
Ouais.
chose de fou, hein, quand même. Hein.
Après, on les retrouve dansant. Non, je
Oui,
déconne.
parfois dans les rues,
Non,
pour les
oui.
fêtes de la musique, tout ça. Bon. Pour justifier sa décision, en fait, il reconnaît que l'ancien président est responsable de la répression. Hein, il dit oui, c'est
Oui.
vrai, il a bien fait ce qu'on lui a reproché. Alors je vous rappelle qu'on lui a reproché un crime contre l'humanité quand même.
Oui,
Hein.
quand même.
Il n'a pas reproché de voler trois oranges. Hein. Mais il affirme aussi qu'il a contribué à rétablir la stabilité économique du pays et que la grâce constitue un acte de clémence à l'égard d'un homme âgé et malade. Voilà. Bon, on peut trouver ça un peu gros, mais voilà ce qui s'est passé. Donc le 26 décembre, hein, depuis son lit d'hôpital, parce que là il va se mettre en scène, Alberto Fujimori, il va demander pardon du fond du cœur aux compatriotes qu'il a déçus durant sa présidence.
Il y a ceux qui l'ont tué, ah ben, ils peuvent plus rien dire, ils
Alors,
sont morts.
le problème, c'est que si t'écoutes bien la phrase, il dit bien qu'il s'excuse de ceux qu'il a déçus lors de sa présidence. Ça ne veut pas du tout dire, et beaucoup le notent, qu'il dit qu'il est déçu d'avoir tué des gens ou qu'il
Ouais.
n'aurait pas dû faire tuer des gens. C'est même, certains disent que c'est sous-entendu qu'il aurait dû aller plus loin et qu'on est très loin de l'idée du « je suis désolé ». Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais. En fait, il s'excusait auprès de ses soutiens, quoi.
C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en gros, beaucoup de gens disent que c'était ce qu'on appelle un double langage, c'est-à-dire qu'il permettait de dire à ses soutiens, si je sors de tout ça, vous inquiétez pas, je vais reprendre la main et ça va repartir, comme à l'époque où on pouvait tuer des villageois et des villageoises. Des familles de victimes de la présidence Fujimori déposent une demande d'annulation de la grâce présidentielle devant la Cour pénale, la Cour suprême, en fait, enfin c'est l'équivalent de la Cour suprême, mais c'est la Cour pénale du pays, en voyant notamment les images de Fujimori sortant de l'hôpital, souriant et libre de ses mouvements. D'un seul coup, il était plus malade. Il
Ouais.
faut dire que le grand air, ça fait du bien.
Bah oui.
Donc le 20 février 2018, il est renvoyé devant un tribunal, hein, pour des faits liés au meurtre de six villageois en 1992. Alors il faut savoir que cette affaire, elle a mis très longtemps à arriver devant les tribunaux, mais c'est parce que la justice péruvienne a été réformée, qu'on a renforcé l'indépendance des juges, qu'ils ont pu enfin se saisir de ce dossier-là. Donc voilà. Et donc en fait, bah, ces villageois, en fait, ils auraient tout simplement demandé leur exécution, et il y aurait des traces écrites de cette demande, donc il ne pourra pas trop nier qu'il l'a demandé. Et le 3 octobre 2018, la Cour suprême, hein, du pays annule sa grâce et ordonne son arrestation immédiate, au nom en fait de la violation de la Constitution péruvienne, prévoyant que l'on ne peut pas gracier des gens pour crimes contre l'humanité. Voilà,
D'accord.
tout simplement. Alors, il se fait hospitaliser, hein, dès qu'il apprend qu'il doit retourner en prison. Il implore les autorités de ne pas le réincarcérer, arguant que ça reviendrait à le condamner à mort. Voilà. Il faut savoir qu'au Pérou, le débat sur la peine de mort est extrêmement intense, parce qu'il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, et que donc il sait très bien qu'en tirant ses ficelles sur cet aspect-là, il allait s'attirer la sympathie de ceux qui sont contre la peine de mort. Vous voyez, donc on voit que c'est un politique assez futé, c'est pas quelqu'un de voilà. Le 6 octobre, la justice refuse de le libérer avant l'examen de son appel contre l'annulation de la grâce, parce qu'il a fait appel de la Cour suprême, vous avez compris. Et le 24 janvier 2019, il est réincarcéré à peu près dans les mêmes conditions que la fois d'avant. Donc je vous rassure,
Toujours 110 000 mètres
ça
carrés.
va pas trop mal pour lui. Voilà. Et en fait, bah, on peut se dire, bah, c'est déjà énorme tout ça, parce que voilà, je vous ai retracé un petit peu tout ce qu'il a fait dans sa carrière terrible, hein, et tout ce qui, voilà. Et c'était important que je revienne sur qui était Fujimori, parce que vous allez comprendre ce qui suit après. Et en fait, il y a un dossier qui est ressorti, c'est parce que Fujimori, grâce en grande partie à ses partisans encore élus, il a réussi à échapper à un ordre d'accusation, pardon, qui lui vaudrait jusqu'à 50 ans de prison pour crime contre l'humanité.
Ok.
Voilà. En fait, dans le droit péruvien, en fait, ce dont il est accusé là pourrait en fait lui valoir 50 ans de prison. Voilà, tout simplement. Ce dossier, c'est celui qui est soulevé depuis 2001 par plusieurs associations, c'est celui de la stérilisation forcée de femmes au Pérou. Voilà. Entre 1995 et 2000, ce sont au moins 330 000 femmes, majoritairement des femmes pauvres, issues de l'ethnie quechua, qui ont été stérilisées de force dans des conditions ignobles et dangereuses, et aussi 25 000 hommes qui auraient subi le même sort. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, bah, très clairement, Fujimori, il va ordonner une campagne de stérilisation forcée dans certaines régions rurales du pays. Le programme était essentiellement dirigé contre la population indigène. Selon un rapport du ministère de la Santé, hein, qui est l'actuel ministère de la Santé, on estime que, au-delà d'être déjà dégueulasse au départ, c'est en plus raciste. C'est-à-dire que très clairement, c'est assumé comme raciste. Alors c'est paradoxal parce que Fujimori avait été élu en faisant toute sa campagne dans les années 90, en expliquant que lui était quelqu'un qui n'était pas issu de la bourgeoisie castillane, c'est-à-dire de ceux qui descendaient des conquistadors, et qu'en plus il était japonais et qui comprenait très bien finalement les gens qui ne ressemblaient pas aux Castillans. Sauf que l'une des premières choses qu'il a mis en place, c'est finalement une gestion extrêmement raciste de la pauvreté, en allant jusqu'à aller vers l'eugénisme, c'est-à-dire le fait de stériliser les pauvres.
Oui,
Voilà.
c'est un mélange en fait là. Enfin, je trouve c'est un mélange de notions de d'ethnie et de classe en fait quoi.
Oui.
Et quand c'est, enfin,
Ah.
souvent sous le pré sous le sous le truc du racisme en fait, t'as la notion de classe en fait qui vient quand même se foutre derrière et que oui c'est
Alors, il faut
parce qu'ils
savoir.
sont quechua et pauvres quoi.
C'est ça. Il faut savoir d'ailleurs que les peuples premiers du Pérou, hein, c'est-à-dire les Quechua et d'autres peuples premiers, ce qui sont trois ou quatre, ils représentent en fait aujourd'hui 97% des extrêmement pauvres du Pérou. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment des populations qui sont méprisées et laissées totalement de côté. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui disent qu'il y a une ambiguïté, parce que certains disent qu'au nom de ne pas changer leur mode de vie, en fait, on les enfonce encore dans une
Ouais, bah
précarité.
on les enferme
Voilà.
dans le rôle de Quechua, quoi.
C'est
En
ça.
fait, toi, il faut que tu sois dans tes champs et que tu t'occupes de je sais pas quoi, et
Oui.
laisse-nous gérer le business, la politique, etc.,
Et
quoi.
ça va même au-delà, parce que les Quechua se trouvent sur des terres qui sont soit intéressantes d'un point de vue capitalistique, parce qu'en dessous, il y a des trucs à récupérer, donc là, ils sont généralement déplacés ou maltraités, mais aussi, surtout, sur des terres qui aujourd'hui sont de moins en moins cultivables du fait du réchauffement climatique. Et ce qui fait qu'ils demandent à pouvoir se déplacer, et évidemment, on leur refuse. Donc c'est pour ça qu'on comprend qu'il y a eu des tensions et qu'il y a aussi eu une guérilla à une époque pour défendre leurs droits et leur droit d'exister. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc l'objectif, hein, clairement, de Fujimori et de son programme eugéniste, c'était de juguler la démographie afin de bénéficier d'une aide économique accrue promise par les États-Unis. Parce
C'est
qu'à
horrible.
l'époque, en fait, les États-Unis vont conditionner une aide, alors c'est une aide de plusieurs milliards de dollars, hein, c'est pas quelques milliers, à l'idée que, il faut que la démographie de l'Amérique du Sud diminue pour que la pression immigratoire vers les États-Unis diminue. Vous voyez, c'est un peu une logique du moins ils feront d'enfants, moins ils viendront chez nous. Vous voyez, c'était
D'accord.
voilà. Et alors, juste pour votre info, hein, c'était aussi bien des démocrates que des républicains qui portaient cette vision-là. Hein, donc voilà. Mais également, en fait, pour Fujimori, il dit que ça va permettre de réduire les populations fortement défavorisées et qui sont donc suspectes de sympathie pour la guérilla du Sentier Lumineux. Ben oui, parce que du
Oui.
coup, les pauvres, ils se rebellent des fois, et autant qu'ils arrêtent de nous emmerder, nous, les capitalistes, qui savons ce qu'on veut faire. Voilà. Donc Fujimori assumera assez clairement le côté eugéniste de son programme, en expliquant que les indigènes font trop d'enfants et n'apportent pas grand-chose à la nation. Voilà.
OK.
Après donc des années de lutte et des dépôts de plaintes, ce dossier, pourtant classé, archivé plusieurs fois, hein, la demande selon d'ailleurs qui arrivait à la tête de l'Assemblée nationale ou des assemblées régionales ou des choses comme ça, voilà, arrive enfin devant la justice. Hein. Les témoignages y sont glaçants, je vais vous en lire un. Donc c'est une femme qui parle. Ils m'ont emmené de force dans une ambulance, je n'étais pas la seule, on était plusieurs femmes entassées comme des animaux. On nous a emmenés à l'hôpital, puis en salle d'opération, et après, ben, je me souviens de plus de rien. Voilà. Donc on imagine dans quelles conditions ça a été fait. Hein. Plusieurs centaines de femmes, d'ailleurs, en seraient tout simplement mortes, souvent des suites d'infections après des opérations faites dans des conditions dégueulasses. Maria Elena Cabarral, qui est présidente de l'association des victimes, elle se réjouit que le processus judiciaire ait enfin débuté. Pour elle, elle dit, c'est un soulagement parce que ce dossier a été archivé à plusieurs reprises et depuis sa réouverture en 2018, le début du procès a été constamment repoussé. Donc le procès démarre enfin depuis la semaine dernière. C'est pour ça que je vous en parle là. Mais on a confiance en la justice qui, certes, a tardé, mais finit par arriver. Alors, j'espère qu'elle aura raison, personnellement, et que la lumière soit enfin faite sur ces actes immondes qui ont été perpétrés. J'espère qu'ils obtiendront une forme de, pas de réparation, mais au moins de reconnaissance de ce qui s'est passé, parce qu'il y a aussi ça, la notion, en fait, aujourd'hui, c'est que c'est complètement tu, et c'est un sujet complètement tabou encore au Pérou aujourd'hui. On refuse de voir en face que, ben oui, on a quand même fait stériliser 330 000 femmes de force, et c'est juste honteux et dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Mais au-delà de la justice, il nous faut, pour nous, garder en mémoire de ce qu'a fait l'autocrate Fujimori, finalement, parce qu'à la fin, il devient une autre forme d'autocrate, quand même, quand il essaye de. Voilà. Et la mémoire, finalement, de celles et de ceux qui sont morts sous ses ordres. Parce que au Pérou, finalement, ou ailleurs, tout ce qui est humain est nôtre. Et à un moment donné, bah, c'est important de garder la mémoire, de garder trace de ce qui s'est passé pour que ça n'arrive plus et surtout pour que les victimes soient enfin reconnues comme étant pas d'éternelles victimes, mais ayant réellement subi quelque chose. Et non pas qu'on leur dise, oui, mais tu sais, c'était avant.
Oui, c'est ça.
Voilà. Je vous rappelle qu'on parle d'actes qui sont passés entre 1990 et 2001.
Oui, c'était hier,
Voilà,
quoi.
c'était hier, c'était pas il y a 70 ans.
C'est
Voilà.
ça.
Voilà, c'était mon sujet pour vous parler un peu du Pérou.
Eh ben, très bien. Je propose qu'on passe à la musique.
Ouais, petite
Eh ben,
pause
allez,
musicale.
let's go.
Cha mama lemba ni gana ni tekela mwa mamba nchi wala 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 Chamuzuna ni chamuzuna zoza yumanje nina lamba mwana yake Mboko na balaba malombo ni kwetombe na mwa mfungu ni kwetombe Gana teko gana nchiwe gana wanla 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 mama lembe Amama ngana njila tolo kolo teaku mama lembe Chikotele Ukelo wo ulutawa Utakelo moka Tena teko cha malemba che kumbamu Teko china che bonson kento Mukento ebuta zolota Ni mwanto fiafieti Mboko kelo wa malemba C'est une petite source qui étanche la soif des bêtes et des hommes Talatin kelo wa malemba Ni wogana kazunu kubishimba mu Eka bo beto bansoni titaba mori anti wowanla Waye menena gande kosonkelo ni wagana mbutu Mbutu jina ni jina jisansa kama kanda manka makulu Momega na chibelo china
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et on vient de s'écouter Les Mamans du Congo et Robin, Robin avec deux R, c'est important. Et elle nous chantait Ngaminké, et en fait c'est une berceuse, voilà, qui raconte une histoire. Et les mamans du Congo, donc c'est des chanteuses de la République du Congo, qui avec Robin ont décidé de remixer, de mélanger à la trance, à la techno et tout ça, des chants un peu traditionnels, et c'est
Ok.
vraiment très très joli. Voilà.
Ok.
Et toi, Jean-Yves, tu avais envie de nous parler d'un truc qui fait rigoler.
oui, ça peut faire rigoler, effectivement.
Ou pas, des
Ou
fois
pas,
pas,
je,
mais
enfin, oui, ça dépend de chacun et chacune. Ce
voilà.
soir, j'ai envie de vous causer de cannabis, vous l'aurez peut-être deviné, bien qu'il y ait bien d'autres substances, enfin bref. Parce qu'en fait, il y a eu une consultation citoyenne au sujet du cannabis nommée récréatif. Donc celui qu'on prend effectivement pour rire et pas pour se soigner ou autre, et qui a débuté donc le 13 janvier et qui a pris fin le 28 février et dont on connaît déjà quelques résultats. Alors il faut savoir hein, que cette consultation en fait elle se place dans le cadre d'une mission d'information parlementaire plus large qui est d'une durée d'un an et qui est commune à 6 commissions parlementaires composées d'une trentaine de parlementaires de la majorité et de différents groupes d'opposition, qui a pour objectif en fait de proposer un état des lieux et d'explorer les enjeux liés aux différents usages du cannabis et à la filière du chanvre. Alors dans les différents usages du cannabis, hein, il y a le récréatif, ce dont je vais vous parler ce soir, il y a aussi le bien-être et il y a le thérapeutique.
C'est juste, je fais une parenthèse marrante, c'est que c'est marrant de se dire que ça va durer un an, et donc ça va arriver pile au moment de la présidentielle, ce qui permettra de faire croire pour certains qu'ils vont légaliser ou pas, voilà, pour tirer quelques voix.
Bon bah voilà, c'est fini pour moi.
Non, mais
Non et
pardon.
voilà, je voulais juste dire, donc le récréatif, c'est effectivement ce principe de consommer pour s'amuser, enfin pour voilà, comme vous consommez de l'alcool sans forcément vouloir être complètement déchiré. Le bien-être, en fait, c'est tout ce qui est CBD, ce qui connaît pas mal de succès en ce moment. C'est des choses qui peuvent un peu vous aider contre l'anxiété, le stress, pour aider à dormir. C'est vraiment ça. Et le thérapeutique, c'est vraiment en direction de gens malades, vraiment quoi. Hein.
Notamment les gens qui ont des cancers,
Par
souvent.
exemple, effectivement. Voilà. Donc il faut savoir hein, que pour cette consultation citoyenne, il y a eu 250 000 personnes qui ont participé. Alors, tu lis des commentaires, des gens disent waouh, c'est trop bien, c'est la deuxième
Grosse
plus
consultation.
grosse consultation. Bon, en fait, ça n'a absolument rien à voir quand même avec la consultation qu'il y a eu sur le changement d'heure hiver-été, hein, qui avait atteint plus de 2 millions de participations.
Oui, mais ça, je comprends, parce que le changement d'heure, c'est important pour
C'est ce que
vous.
je me suis
Voilà.
dit. Je me dis, waouh, il y a quand même vraiment des priorités pour les adorateurs et les adoratrices de la République. Et ça, quand même, c'est génial. Donc voilà, et alors je vais juste vous parler quand même de ce questionnaire. Il est en 3 parties. Donc la première, c'est le profil des répondants et des répondantes. Le deuxième, c'est l'avis des répondants sur la législation actuelle et sur le cannabis. Et enfin, la troisième partie, c'était selon si vous étiez pour une dépénalisation ou une légalisation, ou au contraire, pour le maintien ou voire un durcissement de la législation. Donc, l'idée hein, ici, c'est de partager effectivement quelques résultats. Donc, je vais donner quelques chiffres, j'ai essayé de les transformer un petit peu, enfin, pour qu'essayer de ne pas vous donner trop de chiffres non plus, enfin, je ne sais pas comment dire, mais. C'est toujours compliqué de donner des chiffres à la radio parce que ça peut paraître un peu. On s'y perd. Mais nous aussi, des fois, on s'y perd. Donc voilà. Donc un mot sur les participants. Hein. Donc il y a un tiers des répondants qui déclarent ne jamais avoir consommé de cannabis. Un autre bon tiers qui en consomme occasionnellement. Et le tiers restant, il est constitué de 17% de fumeurs et fumeuses et 13% qui consomment quotidiennement. Bon. C'est ce que je me suis dit, c'est qu'il y a quand même une forte présence des personnes qui ont, on va dire, une affinité plus ou moins régulière, plus ou moins approfondie avec le cannabis. Donc c'est hyper difficile de projeter finalement sur 70 millions de personnes.
Ben, je ne sais pas, parce que finalement, je me dis que si on faisait une consultation sur l'alcool, on aurait à peu près la même chose. Deux tiers de gens qui en boivent occasionnellement, un tiers qui en boit beaucoup et un tiers qui n'en a jamais bu. C'est pas forcément si peu significatif, en fait.
Ouais, je sais pas. C'est toujours cette transposition de 250 000 à 68 millions. C'est toujours un peu casse-gueule, je pense. Donc voilà, il faut aussi savoir que sur tous ces répondants et répondantes, hein, les deux tiers, en fait, c'était des répondants, donc des mecs. Alors c'est marrant parce que dans les quotas de, enfin, de personnes qui fument, c'est assez semblable. C'est-à-dire qu'il y a plus de mecs qui fument que de femmes. Et pour autant, la population française, c'est pas 70%, 65% de mecs ou et que 35% de femmes.
Oui, mais dans nos sociétés patriarcales, les hommes ont le temps d'avoir de la récréation là où les femmes en ont beaucoup moins.
Ah, ça c'est sûr.
C'est aussi lié à
Ah,
ça.
oui. Et sur donc, tous ces répondants et répondantes, hein, il y avait un quart qui avait plus de 40 ans
Waouh, ça
et
fait
la
beaucoup.
moitié, ouais, et la moitié moins de 30 ans.
Moi, je dis que ça fait beaucoup. J'aurais pensé que c'était un sujet qui finalement aurait été plus axé avec beaucoup, beaucoup de jeunes. Et finalement, bah, c'est bien
Ouais, t'as
qu'il y
quand
ait.
même un quart, ouais, de plus de 40. Donc voilà, alors les premiers résultats proprement parlés, bah alors consommateur ou non, en fait, le résultat il est assez clair quand même, c'est que 92% enfin ils sont 92% à remettre en cause le dispositif pénal actuel. En tout cas, ils ne le trouvent pas efficace pour diminuer la conso et pas plus pour limiter les trafics. Ça ne dit rien sur comment ils voient
Non.
l'après, mais en tout cas, il y a quand même un consensus assez global pour se dire qu'au fait, aujourd'hui, ça ne sert absolument à rien, la législation est mauvaise. Alors, après, c'est concernant en fait leur position sur une éventuelle évolution, hein, de la législation. Il y a 80% quand même des répondants qui se disent favorables à une forme de légalisation du cannabis. Il y en a quasi 14% qui se déclarent favorables à une dépénalisation. Et ensuite, on a 4,6 qui sont pour un renforcement des sanctions et 0,8 pour le maintien du cadre légal en vigueur.
Ah, on peut penser que le Darmanin a dû voter, tu vois, 0,8 à
C'est
l'époque.
ça, il a dû appeler tous ses copains des bureaux ministériels.
Mais par contre, c'est intéressant parce que ça veut donc dire globalement hein, qu'on a à peine un peu plus de 5% des gens qui veulent soit qu'on aille plus fort contre les consommateurs et de cannabis, soit qu'on reste comme aujourd'hui. Mais finalement, c'est assez faible parce que par rapport au discours anxiogène et notamment que peut tenir Darmanin, un ministre de l'Intérieur, sur le cannabis, tout ça et compagnie, on se rend compte que les gens qui ont été interrogés, bah, globalement, ils sont plutôt à se dire, bon, allez, le cannabis et l'alcool, c'est pas beaucoup plus grave, il faut arrêter de faire chier les fumeurs de cannabis. Enfin, en gros, on peut le traduire un peu comme ça,
Oui,
quoi.
c'est ça. Donc, pour les personnes qui sont favorables à la légalisation, à la dépénalisation, pour l'instant, enfin, on n'a que deux résultats. Donc là aussi, hein, il s'agit de tempérer, il ne s'agit pas de s'enflammer et de se dire, ouais, c'est trop bien! Non, non, c'est juste calmons-nous et enfin voilà, on verra avec les résultats qui vont sortir de l'étude complète quand même, mais j'avais quand même envie d'en parler. Donc, sur toutes les personnes qui étaient donc pour une forme de légalisation ou de dépénalisation, ben, il y a une question sur les modes de vente en fait du cannabis. Alors il y en a quand même 62% qui imaginent une commercialisation du cannabis dans des boutiques spécialisées. Il y en a 24 qui sont pour la vente, 24% pardon, qui sont pour la vente régulée sur le modèle de l'alcool. Il y en a 8,6 qui sont pour la vente dans les bureaux de tabac et 3,8 pour une vente libre.
Ah, c'est intéressant quand même, ça fait un panel très varié
Oui, et qu'en même temps, moi
de...
je trouve intéressant d'avoir quand même majoritairement des gens qui disent bah, il faut des boutiques spécialisées pour, parce que c'est peut-être bien de ne pas forcément trouver des substances psychoactives, peut-être dans les tabacs ou autre. Enfin voilà, vraiment, je suis intéressé, j'aimerais bien comprendre un peu plus justement pourquoi ces choix-là. Bon, après, je les ai pas, mais.
Moi, je suis plutôt favorable, par exemple, au cannabis trop, à titre personnel, si on devait faire un
Ah, mais là, t'es
parallèle.
encore, ouais.
C'est à l'idée d'avoir un lieu où on peut, alors pas forcément consommer, parce que bistrot on consomme, mais un lieu où, effectivement qui soit dédié à la vente du cannabis. Parce qu'effectivement, ça évite de le coupler avec le tabac ou de le
Ah, mais
coupler avec tout
oui,
ça,
clairement.
et que c'est plutôt positif de se dire on
C'est
fait un
ça.
lieu qui est dédié
Ah,
à ça,
ça,
et comme il y a des
effectivement.
cavistes qui vendent de l'alcool,
Oui, c'est
quoi.
ça.
C'est un peu
Après, c'est
les...
sur les modes de fonctionnement de ces boutiques-là.
Ah bah
Enfin, bref,
on peut appeler ça des cannabistes, en fait, pour
Oui,
le coup.
non, mais c'est qu'en plus, il y a des gens qui s'étaient organisés pour faire ça en mode associatif.
Oui.
Donc, c'est aussi intéressant ensuite d'imaginer peut-être les formes que peuvent avoir ces
Une
boutiques-là.
coopérative de la
Oui, c'est
défense.
exactement ça. Donc, on a un autre résultat, c'est concernant l'autoproduction. Parce qu'il y avait une question qui était là-dessus. Et en fait, ils sont dans les personnes qui sont favorables toujours hein, à la légalisation ou la dépénalisation. Enfin, une très grande majorité, en fait, 86%, c'est pas rien, bah, sont favorables en fait à ce que l'État, forcément, permette en fait aux particuliers de cultiver eux-mêmes des plantes cannabis dans des limites qui seraient fixées par la loi, bah, comme en fait c'est le cas au Canada par exemple. Donc là aussi, je trouve ça hyper intéressant finalement de dire aux gens, enfin que les gens se disent, bah oui, en fait les gens peuvent cultiver chez eux. Et là aussi, il y a peut-être des manières de faire qui pourraient être intéressantes aussi, pareil, des coopératives ou des choses comme ça, et ça peut se faire parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans l'incapacité de faire pousser des plantes, je pense aux personnes malades ou autres, et qui pour autant pourraient bénéficier des fruits de la culture.
Ou même tout simplement aux personnes qui n'ont pas la main verte,
Aussi, ça existe. Non mais
hein.
oui,
J'en
enfin,
connais.
non mais oui. Donc voilà. Alors après, ce qui est dommage, hein, moi, ce que je me suis dit, c'est que qu'on n'ait pas les résultats qui sont liés à la question qui concernait les raisons en fait de la position pro-légalisation ou dépénalisation, parce que c'était des questions avec des propositions que moi je trouvais quand même assez limitées ou du moins très axées. Parce que, alors je vais vous les citer, hein, c'était soit vous êtes pour, passe pour, dans le sens de lutter contre le trafic. L'autre solution qui était proposée, c'est permettre aux forces de l'ordre de se consacrer à d'autres missions. Une autre, c'était concentrer les moyens sur la prévention. Et la dernière, c'était permettre de dégager des recettes fiscales. Et ce que je me suis dit, ce qui est dommage, c'est qu'on ne parle jamais en fait là de santé public, en fait, on ne parle jamais de qualité des produits. Il y a quelque chose où je trouve quand même assez fou, c'est que finalement, c'est soit sécuritaire, soit économique.
Mais c'est ça, c'est qu'on voit qu'encore une fois, on refuse de dépasser le débat sur la substance elle-même, c'est-à-dire sur la qualité de la substance, tout ça, et on reste dans un débat purement fonctionnel et
C'est
purement
ça,
répressif en
c'est ça.
disant on va en parler quand même comme quelque chose de dangereux parce que ce serait quand même, voilà. Alors qu'on fait une consultation citoyenne, mais on maintient quand même cette idée d'ultra-dangerosité, machin et tout. Mais c'est drôle parce que finalement, ils ont assez peu de répondants, de personnes qui ont répondu, que finalement, ils étaient d'accord avec cette vision répressive, puisqu'ils sont minoritaires, ils sont 5,4%, et c'est extrêmement faible quand on regarde bien par rapport aux attendus que devait avoir la personne qui a rédigé ces questions légèrement orientées.
Ouais, évidemment, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est pourquoi on est pour, en fait. Si quelqu'un est pour la dépénalisation en disant, ouais, ça va dégager des recettes fiscales, je trouverais ça toujours dommage parce que je pense que c'est pas, enfin, c'est attaquer, ou en tout cas s'attaquer à une problématique par un angle que je trouve absolument chiant, en fait. Si c'est l'économique ou le
On est
sécuritaire,
d'accord.
la substance, elle est hors de la question, quoi. Pareil aussi, dommage qu'on n'ait pas les réponses concernant les priorités budgétaires qui pourraient être financées par les entrées d'argent. Question qui était posée donc dans ce sens-là, hein. Et les propositions, c'était prévention en matière de consommation de cannabis, en particulier des mineurs. L'autre, c'est lutte contre les addictions. La troisième, renforcement des politiques de la ville. La quatrième, réduction de la dette. La cinquième, baisse des impôts. C'est absolument formidable de se dire qu'encore une fois, tu peux prendre des trucs. Enfin, il y a des choses où c'est quand même très, très politicard, quoi. Après, moi, lutte contre les addictions, etc., je trouve très intéressant. Mais justement, c'est pour ça que j'aurais vraiment voulu avoir
Dans
les
le
réponses à
détail.
ces questions parce que je trouve que oui, c'est absolument intéressant de savoir pourquoi on est dans une lutte politique, enfin, pour la légalisation ou autre, quoi. Bref, selon moi, hein, ce sont des politiciens et des politiciennes qui sont plus axés sur des logiques économiques, étatiques et sécuritaires que sur des idées de santé publique, de liberté, qui en fait là s'interrogent sur le cannabis, tiens, mais sans perdre leur logique,
Dans lecture habituelle.
leur lecture habituelle, c'est ça. Et là aussi, je te rejoins sur ce que tu disais avant, c'est il faut pas non plus oublier, hein, que des élections présidentielles auront lieu dans un an environ et que le sujet du cannabis, quand même, est souvent, pour ne pas dire toujours, un truc qu'on met en avant, enfin que les partis politiques, en tout cas certains, mettent en avant pour chercher des voix lors de ces mêmes élections, en direction souvent des publics jeunes, etc., etc. Sauf que là aussi, il y a quelque chose d'un peu du cliché, parce que finalement, dans les profils,
Il n'y a pas que des
il n'y a
jeunes.
pas que des jeunes, quoi. Donc là aussi, c'est assez marrant sur les clichés,
Et on
finalement.
peut d'ailleurs se souvenir que le président actuel qui a été élu avait une position avant les
J'y
élections
viens.
assez open et après beaucoup moins.
Ouais, assez open. Ouais, ouais,
Enfin,
ouais,
plus
ouais.
open, on va dire.
Alors, ouais, justement, et c'est ce que... C'est que là aussi, enfin, il faut resituer cette consultation citoyenne, ou du moins le sujet de cette consultation, hein, le cannabis, dans l'approche politique du pouvoir politique actuel aux commandes du pays en fait. Parce que en effet, il ne faudrait pas oublier hein, que le candidat Macron était on ne peut plus obscur sur sa position à propos du cannabis. Hein. Il jugeait, quand il était candidat, il jugeait vain de pénaliser systématiquement la consommation de cannabis. Mais ne croyez pas à la dépénalisation des petites doses.
Mais il a raison, il faut dépénaliser les grosses doses.
Ouais, non, mais
Ah
c'est complètement le en même temps. Tu sais,
bah c'est Macron, hein, en
je
même
suis
temps.
d'accord, mais en même temps, quand même, je suis pas d'accord. Donc, et dans son livre, déjà, qui avait un beau nom, n'est-ce pas? Révolution. Oui, une révolution peut-être complètement libérale et tout ce qu'on veut.
Et réactionnaire,
Et
des fois.
réactionnaire, évidemment. Donc, lui, il proposait hein, dans son livre une amende de 100 euros pour les consommateurs, ce qui est une contraventionnalisation. Selon ces mots, quoi. Donc une forme de dépénalisation.
Et c'est finalement ce qu'ils ont plus ou moins mis en place,
Et ben
voilà.
justement, qu'est-ce qui est en place depuis septembre 2020? Et ben je pleure dans le mille, une amende forfaitaire de 200 euros.
Ah oui, il a doublé la mise.
Ah bah oui,
Oh.
il a eu des ambitions en plus depuis, qui s'applique à toutes les drogues, mais vise surtout hein, les usagers de cannabis. Le principe de cette amende, hein, bah, c'est chaque policier muni d'un téléphone permettant de consulter les antécédents judiciaires d'un fumeur de joint peut imposer une amende forfaitaire de 200 euros, ramenée à 150 en cas de paiement rapide et alourdie à 450 dans le cas inverse.
J'adore la notion de paiement rapide. Enfin, tu as l'impression vraiment d'être à une caisse d'un
Mais c'est
supermarché.
oui,
T'sais.
c'est
Si vous payez tout de suite, vous avez 10% de moins.
et en fait tout ça c'est un règlement expéditif en fait qui vise en fait et qui vise notamment à désengorger les tribunaux. Donc là encore, hein, on ne fait pas pour ne pas envoyer en taule, on ne fait pas pour ne pas criminaliser les consommateurs. Non, en fait, on le fait pour désengorger les tribunaux. En fait, je trouve
Et
que
remplir les caisses de l'État au
et encore,
passage.
et, ah bah oui, faut pas déconner, avec un truc que t'es pas censé avoir. Mais on va quand même te taxer dessus, mais parce que, en fait, c'est
Ah
complètement,
oui.
c'est vraiment, il y a un truc qui est complètement contradictoire, je trouve, dans tout ça. Et puis, bah, forcément, enfin, ça va viser qui? Ça va viser les plus jeunes, les plus pauvres, qui se feront choper dans la rue, là où les plus riches pourront se faire livrer, parce qu'à l'heure à l'heure de 2021 et de Deliveroo, et de toutes les plateformes, vous inquiétez pas, on peut trouver à peu près de tout aujourd'hui sur Internet.
Enfin,
Donc,
c'est ce qu'on nous a dit,
oui,
nous,
non, mais ce qui fait
d'ailleurs.
que c'est toujours encore une fois une politique qui est aussi des cibles sociales. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, quoi.
Et ça a marché le coup de l'amende ou pas du coup?
Et ben justement, c'est-à-dire que bon, bah là, il y a eu un bilan qui a été fait au bout de 6 mois, hein, et il est pas dingue, dingue. Hein, c'est donc au 24 février. Enfin, il n'est pas dingue pour eux, hein, parce qu'ils auraient mis beaucoup plus. Au total, donc au 24 février, hein, c'était 43 500 amendes qui ont été dressées, selon le procureur de Rennes, hein, qui en fait assure la tutelle du Centre national de traitement des infractions. Et s'il est encore trop tôt pour évaluer le recouvrement après contestation, il y a environ 40% des contrevenants qui les ont payés spontanément.
D'accord, donc c'est oui.
Bah, 43 000 amendes.
C'est pas grand-chose.
Enfin, quand on sait
Mais.
que les consommateurs, par exemple, de cannabis en France s'élèvent, comme je pense, enfin, selon les chiffres, je pense qu'on est quand même à quelques millions.
Ouais, c'est 4 millions de consommateurs réguliers.
43 000, bon, bah, c'est un peu. C'est assez ridicule,
Mais
quoi.
je crois que ça repose aussi sur une image un peu fantasmée qu'ont les politiques, qui sont complètement déconnectés du réel, hein, faut pas oublier, qui pensent qu'en fait les gens ils fument leur joint en bas de chez eux, couchés dans l'herbe devant chez eux, ou je sais pas, au milieu de la rue, ou des choses comme ça. Enfin, mais au même titre d'ailleurs que c'est assez rare les gens qui sont en train de teaser une bouteille en bas de chez eux ou au milieu de la rue. Donc, en fait, c'est cette vision en fait, complètement débile, excusez-moi du terme, mais idiote, du fumeur de cannabis qui serait complètement teubé et qui serait là en train de fumer au milieu de la rue et qu'on va pouvoir choper et lui mettre des amendes. Enfin, je trouve qu'on voit encore une fois qu'il y a un mépris, il y a un mépris pour les gens qui consomment et il y a quand même une vision mais de l'État qui est complètement mais hallucinante. C'est-à-dire que moi, quand j'entendais l'autre jour, je ne sais plus quelle est la ministre là, ah oui, Marlène Schiappa, c'est ça qui est rattachée à Darmanin, qui nous explique que le cannabis brise la citoyenneté. J'aimerais bien savoir quel discours elle a sur l'alcool ou sur d'autres substances. D'un seul coup, le cannabis devient une espèce de baguette magique qui qui fait tout et n'importe quoi. Parce
c'est
que...
le responsable de tous les maux de la société.
Mais c'est ridicule, quoi. Enfin, voilà, faut arrêter, faut arrêter. Là, ça touche du doigt. Et les réponses, finalement, à cette consultation, elles montrent bien que même les gens qui répondent voient bien que c'est ridicule.
Ah oui.
Sinon, ils auraient
Même si,
répondu majoritairement dans l'autre sens,
oui,
quoi.
c'est ça, c'est exactement ça, quoi. Donc voilà, donc autour de tout ça, donc c'est super, on fait du chiffre, on fait rentrer du fric. Ça, l'État, il adore toujours. Et on en dépense moins à ce sujet dans les tribunaux, évidemment. Mais aux yeux, en fait, de ce que représente la consommation de cannabis, encore une fois, c'est absolument, enfin, ridicule. Si tant est, on soutienne une politique répressive, hein, ce qui est absolument pas mon cas et pas plus celui de Fab.
On ne
Je
fait pas
pense
celui de
d'ailleurs,
la
c'est pas le cas de
causerie.
la causerie, en fait.
Voilà,
Ouais,
pas
c'est
celui de la
ça.
causerie tout court.
Et je pense que c'est pas celui de Canu non plus, parce qu'on rappellera que Canu a une émission du cirque qui s'appelle Cannabis Circus. Pardon. Donc voilà. Et en fait, tout ça, il faut quand même savoir, il faut le replacer, c'est que la France, en fait, applique une des politiques les plus répressives. C'est-à-dire qu'on, y a, j'ai trouvé justement un gars qui le disait, c'est bah, la France, en fait, a l'arsenal répressif le plus strict d'Europe, et pourtant, c'est le pays qui compte le plus de consommateurs de cannabis, 11% des Français, 3 fois plus qu'il y a 30 ans.
Mais en fait, c'est logique. On le sait depuis la prohibition aux États-Unis, quand ils avaient voulu interdire l'alcool. En fait, quand on prohibe une substance, quand on la rend, en fait, on la rend désirable.
Oui.
C'est le concept en fait très humain du bah, si on m'interdit de faire, c'est que ça doit être pas mal. Voilà. Et encore une fois, hein, je le dis souvent, moi sur les drogues, et on l'a déjà dit dans la causerie, il vaudrait mieux commencer par dire aux gens, oui, les drogues, en fait, vous allez aimer parce que ça fait du bien. C'est-à-dire qu'en fait, on prend pas de la drogue pour se faire du mal. C'est les conséquences de
C'est
qui sont
ça,
problématiques. Mais c'est valable avec l'alcool, c'est valable avec plein de choses. Sauf que le cannabis, en l'occurrence, c'est une des rares drogues qui n'a pas d'effet délétère à long terme, sauf pour les plus jeunes, quand il ne faut pas fumer
Évidemment,
jeune, ne fumez pas
évidemment.
avant vos 18 ans. Mais en tout cas, c'est parce que ça a des effets sur le cerveau, et ça, c'est
C'est
bien
ça.
montré. Mais par contre, on sait que c'est une drogue qui, finalement, n'a pas les mêmes, par exemple, a moins d'effets que l'alcool
Oui.
sur le long
Ah mais
terme.
sur les
Ah,
classements
ben
des
oui.
substances, le cannabis ne se trouve pas avec l'alcool et
Oui.
l'héroïne.
Ou tout simplement moins d'effets que les somnifères.
Aussi.
Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, cette prohibition, bah oui, forcément, elle donne envie aux gens d'aller essayer, et c'est normal. Bah, je rappelle, la prohibition aux États-Unis de l'alcool, les gens allaient dans des tripots clandestins, et en plus, il y avait un petit côté on s'en canaille,
Oui,
quoi. Oh
c'est
là là, c'est
ça.
génial, on fait un truc qui n'est pas très très légal. Et en fait, c'est totalement ridicule comme politique, parce qu'on sait que ça ne marche pas, mais on le sait même historiquement. Donc ce qui est fou, c'est qu'on continue comme ça, en
En
fait.
plus, c'est hyper infantilisant.
Ah bah oui, bah, de toute façon,
C'est-à-dire qu'un. Non, mais
La France infantilise toujours sa
c'est
population.
juste
Hein.
que souvent, en fait, un enfant, tu veux dire, fais pas ça, bah, son premier truc, c'est il
Ah
va le
oui.
faire, mais parce que c'est
C'est
aussi
humain.
sont confrontés à des limites, etc. Et que, en soi, enfin voilà, bref.
Ben, je reprends une image que j'avais beaucoup aimée, je ne me rappelle plus du nom de la personne qui l'avait dit, elle disait, si vous arrivez devant une barrière où il y a marqué ne pas passer, votre premier réflexe dans votre cerveau, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a derrière?
Mais oui,
Et ben c'est exactement ça en
mais oui,
fait.
oui, on est des individus un peu barrés, quoi.
Et curieux en
Mais
fait.
oui, et là encore, enfin, c'est ce que je me disais, c'est qu'en fait, on est toujours dans la guerre contre les consommateurs, enfin, c'est exactement ça. Et je me dis, c'est comme si on criminalisait finalement les personnes qui consomment de l'alcool juste parce qu'elles consomment de l'alcool. Et qu'en fait, enfin, vraiment, enfin, là, c'est juste un positionnement politique et judiciaire qui fait que, bah, le cannabis est mauvais alors que l'alcool c'est super. Même si on fait plein de pubs pour dire que c'est pas bien, même si là encore une fois sur l'alcool on a diminué les sanctions contre la publicité. Hein.
Bien sûr,
Donc c'est toujours pareil,
mais moi
deux poids, deux mesures.
je vais faire un parallèle aussi. Et pardon, on va être un peu long, on va
Ah
dépasser tout ça. Mais en
ouais.
fait, le truc, c'est qu'on a aussi ça avec la malbouffe. C'est-à-dire qu'on montre du doigt les gens qui deviennent obèses parce qu'ils mangent mal, machin et tout. Mais en fait, on montre les consommateurs du doigt. Par contre, on va jamais chercher qui fabrique la malbouffe. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on va montrer les consommateurs du doigt parce qu'on va dire oui, mais les consommateurs, il y a une guerre des gangs, machin et tout. Mais on va pas se poser la question de qui fournit. Et qu'en fait, au final, bah, on montre du doigt le bout de la chaîne, alors que ce qui est plus important, bah, c'est qui fournit, qui fabrique, qui fait. Et là, on est vraiment encore une fois dans une belle démonstration où on nous fait croire qu'il suffirait que les consommateurs ils se disciplinent et que ça ira mieux. Bah, c'est pas aussi simple et on le sait, donc voilà.
Mais non, enfin,
Bah oui,
oui,
donc
sur un
c'est.
truc comme ça, oui. Bon, bref. Et tout ça aussi, je me disais, c'est, il faut aussi le placer à la suite, en tout cas, de déclarations du sinistre de l'intérieur, un certain Gérald Darmanin, qui citait, et je vais le citer quand même, hein, qui disait, légaliser serait une lâcheté. Et il disait aussi, parce qu'on sait que c'est du poison, que c'est au cœur de toutes les formes de délinquance et de trafic. Derrière le trafic de drogue, il y a des cambriolages et des agressions pour se payer sa dose, mais aussi de décrochage scolaire. Enfin, il faut avoir en tête que cet argent sale finance en partie le terrorisme. Bon, là, c'est bingo, hein. Enfin, c'est. Alors, tu mets terrorisme, tu mets délinquance. Ouais, en fait, peut-être que la pauvreté a quelque chose à voir, en fait, aussi dans certaines
Bien
situations
sûr.
de lutte, etc. Parce que, en fait, il y a des gens qui font du deal aussi juste parce qu'il faut de la thune, quoi. Enfin, je veux dire, il faut arrêter les conneries. C'est pas des mecs qui gagnent 3, 4, 5, 10 000 par mois qui vont dire aux gens, c'est pas bien de gagner de l'argent, quoi. Enfin, je veux dire, là aussi, c'est hyper schizo, quoi.
Et surtout, c'est marrant parce que j'aimerais renvoyer notre cher sinistre de l'intérieur à ses propres services qui ont démontré que non, en fait, la grande délinquance, elle n'est pas liée au cannabis, elle est liée en fait aux drogues plus dures et qui sont majoritairement consommées dans les quartiers chics. Donc ce serait quand même intéressant un jour que M. Darmanin, bah, il tape à la porte de son voisin pour savoir ce qui se passe, plutôt que d'aller continuer à faire chier les pauvres.
Ah ouais,
Voilà,
mais c'est. Ils ont
pareil.
de la solidarité de classe, hein,
Oh,
faut pas
s'il vous
déconner.
plaît.
Ah, eux, oui, ils n'ont pas oublié, tiens. Et il disait aussi, quand bien même on légaliserait, vous croyez que les dealers marseillais ouvriraient une petite boutique en déclarant leurs impôts à l'URSSAF? Bien sûr que non. Ils ont été habitués au black et à ne pas être imposés à brasser beaucoup d'argent qu'ils blanchissent souvent à l'étranger. Et il prévient, les gens malhonnêtes ne deviendront pas soudainement honnêtes parce que nous avons baissé la garde. Et il disait aussi que le cannabis, c'est cette merde. Non mais c'est pareil, c'est blindé de clichés. C'est alors
Et de
que.
raccourcis.
Mais oui, mais des
Mais
raccourcis à fond, quoi.
en même temps, je voudrais quand même dire que je comprends Darmanin. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui soutient Nicolas Sarkozy, qui quand même a l'habitude d'avoir des valises de billets, des choses comme ça. Donc je
Mais
comprends
oui.
qu'il ait l'impression que tous les gens malhonnêtes ne deviennent jamais honnêtes. Bah, quand on a des amis qui sont comme ça, on a du mal à se dire que d'autres peuvent devenir honnêtes.
Bah, c'était un peu ça, ma fin, c'est justement, bah, en fait, maintenant, c'est un idéologue sur pattes, en fait. C'est un Mac, un Mac.
Oh, pas
Tiens,
loin, frère.
désolé pour le lapsus. Mais c'est un mec, en fait, qui parle de ce qu'il ne connaît pas, mais vraiment pas. Enfin, je veux dire, quand il dit le cannabis, cette merde, c'est en fait, il se réfère à une pub des années 80 ou 90.
Bien sûr.
Tu te dis, mais gars, c'était il y a 30 ans. Enfin, c'est complètement absurde. Mais pourtant, ça, enfin, en tout cas, ça semble marcher. Mais il faut pas oublier aussi que Darmanin veut incarner la droiture, l'autorité, hein, un truc qui manque terriblement. Et ça, c'est totalement en contradiction avec une politique publique digne de ce nom-là envers les drogues. Après des dizaines d'années, on est à plus de 50 ans de politique répressive. Totalement inutile, il faut le dire, totalement
Et
inutile.
contre-productive
Mais
même.
bien sûr, et que finalement, je pense que les politicards y tirent aussi leurs épingles quand ça se tire dessus, quand il y a du
Bien sûr.
trafic, parce que ça permet de faire la guerre des pauvres contre les pauvres, et de pendant ce temps-là, on va surtout pas mordre, pardon, la main de nos maîtres, hein, ceux
Beaucoup
qui en tout cas,
de lapsus
ouais,
ce
beaucoup de
soir.
lapsus ce
Non,
soir, je
mais
sais pas ce qui se
moi, ce
passe.
que j'aime bien chez Darmanin qui veut incarner la droiture, ben, ce serait bien quand même qu'il démissionne de son poste de ministre, parce que bon, quand on est mis en accusation pour
Ah
viol.
bah c'est tout le truc en fait, hein. C'est que je me disais aussi, c'est qu'il nous rejoue la partition sarkozyste ou sarkozienne du « il n'y a pas de drogue douce ou de drogue dure, il n'y a que des drogues interdites ». Là aussi, on est dans quelque chose d'absolument vide, simpliste, binaire, et en fait ces gens-là se disent ou veulent nous faire croire qu'ils sont intelligents, mais ils sont absolument idiots en fait, parce qu'ils n'ont absolument aucune nuance, rien du tout.
Et
Et je...
il est bien connu que quand quelque chose est interdit dans le code pénal, c'est pas fait.
Ben oui,
Hein, demandez à Nicolas
c'est
Sarkozy.
ça. Et c'est ce que je me disais, en fait, c'est quand on connaît leur probité, leur honnêteté scrupuleuse, hein, c'est la définition de probité, au sujet des agressions sexuelles. Enfin non, attention, des demandes de faveurs sexuelles pour l'un, hein, ou quand on parle de corruption pour l'autre, ah, c'est sûr qu'on peut leur faire confiance, hein, pour être absolument objectif et honnête au sujet du cannabis et des drogues en général. Là aussi, en fait, je me dis, c'est aussi une... Finalement, les électeurs, les électrices et toutes celles et ceux qui continuent de croire en ce truc-là, qui appuient des gus comme ça. Enfin, je veux dire, c'est absolument, enfin, c'est merdique, quoi. Donc voilà. Donc j'espère quand même avoir les résultats de l'enquête totale pour peut-être essayer d'en reparler. Mais voilà, je crois que c'était intéressant quand même de voir que là où on a des ministres qui nous parlent de cette merde et de trafic et tout ça, bah, on a des gens, 250 000, qui sont beaucoup plus nuancés ou en tout cas plus progressistes, peut-être finalement aussi. Et je voulais juste finir sur un petit truc qui n'a rien à voir avec le cannabis récréatif, mais c'est juste rappeler que en 2019, en fait, l'Assemblée nationale avait autorisé l'expérimentation de cannabis thérapeutique Mais bon, il y a eu le Covid entre-temps, on le sait.
C'est un peu une excuse, ça,
Je
quand même,
pense
hein.
aussi, mais bon, je me suis dit, bon, ok, allez. Mais ce qui devrait bientôt commencer, c'est une expérimentation, hein, sur 3000 personnes souffrant de maladies graves et qui devrait commencer le 31 mars au plus tard. Là aussi, on peut le rappeler, hein, la France est un des rares, enfin, des vieux pays et dernier pays, en fait, à ne pas s'interroger, à ne pas s'intéresser. Ou en tout cas aussi tardivement au cannabis thérapeutique, quoi. Il y a des pays où ça fait très longtemps. Et là aussi, enfin, la France est vraiment un vieux pays assez conservateur et qui aime bien son pinard et ses fromages. Mais alors par contre, tout ce qui sent l'herbe, ça les dérange un peu plus.
Alors le problème, c'est qu'on a du mal à soigner l'épilepsie avec du fromage. Par contre, on y arrive bien avec le cannabis thérapeutique. Donc c'est
C'est
juste, en fait, à un
ça.
moment donné, alors ça marche pas sur tous les
Non.
épileptiques, mais ça marche sur certains
C'est
types
ça.
d'épileptiques. Et à un moment donné, pour moi, à partir du moment où on refuse d'amener un soin à des gens, c'est qu'en fait, on fait un choix de laisser des gens dans la souffrance et dans la douleur. Et ça s'appelle un choix politique et c'est un choix darwinien social, au sens où finalement, si tu as les moyens, tu peux, si tu n'as pas les moyens, tu crèves.
C'est exactement
Voilà.
ça. Et sans compter que je pense qu'ils attendent aussi que les entreprises pharmaceutiques se lancent complètement dans le business en France.
Oh, c'est fait aux États-Unis, donc
Mais oui, donc ça
ça
va
se passe
arriver.
pas en
Donc
Europe,
ça
quoi.
sera d'un coup, on pourra dire c'est super bien parce que. Mais là encore une fois, c'est que de l'idéologie en fait.
Voilà, on vous le vendra sous le nom d'un médicament, mais ce ne sera qu'une molécule issue du cannabis.
Oui, comme le Sativex par exemple.
Ah, je voulais pas donner faire de pub, mais c'est
Ah non,
exactement
mais
ça.
c'est un des rares médicaments
Ouais, voilà.
qui est autorisé. Ben voilà, on a fait déjà assez long. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un
Non, mais
truc,
je
non?
voudrais bien qu'on fasse une petite
On
pause
passe, ouais, c'est
musicale.
ça, on passe à la musique. Et vous êtes de retour, en tout cas toujours à l'écoute, on l'espère, de la causerie sur Radio Canu. Et là, on vient de s'écouter le titre Mafuba de Senbei, un artiste aussi qu'on aime beaucoup et qu'on vous conseille d'écouter.
Oui, et
Et
il a
ben.
même une truc qui fait slum aussi.
Oui, il est aussi dans le duo Slum, qu'on vous a déjà fait écouter souvent, et certainement que vous en écouterez encore.
Donc vous noterez qu'on n'est pas très variés, côté musique, mais c'est comme ça.
C'est ça.
Je plaisante.
Eh bien, je crois qu'on n'avait pas grand-chose à rajouter.
Non, si vous avez la chance de nous écouter sur le podcast, genre parce qu'on va peut-être le mettre un peu avant sur le blog, comme d'habitude, et que vous dites « Ah tiens, qu'est-ce qu'il y a à faire ?» Eh bien, le 8, le 7... À 14h, il y a une manif Place Bellecour pour la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Et le 8, vous avez aussi une manifestation à 15h40 Place Jean Massé, rassemblement pour la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Voilà, donc c'est deux rendez-vous qu'on peut vous donner. Ouais. Pour le reste, on vous dit allez voir à droite ou à gauche ce que vous pouvez trouver, mais surtout plus à gauche et chez les ANA. Et sinon, j'avais aussi une petite recommandation à vous faire. Écoutez, quand elle sera mise en ligne, l'émission du petit bazar qui a eu lieu aujourd'hui, car nous enregistrons le 6 mars à 16h26, là à l'heure où je vous parle. Et donc en fait, dans le petit bazar, vous avez une causeuse qui a fait un petit choix musical. Pour ne pas la citer, c'est Clara. C'est Clara, voilà. Et donc je vous laisse de découvrir cette super bonne émission qu'est le petit bazar.
C'est une sélection faite par des femmes de titres selon leurs envies, ce que ça voulait dire pour elles.
Voilà, et donc et en général, écouter le petit bazar, c'est très sympa. Mais en tout cas, allez écouter cette émission du 6 mars. Voilà.
Voilà. Et bien, il est l'heure de se quitter et on se quitte avec...
Avec un titre qui va nous faire voyager, avec Bon Voyage Organisation qui nous joue le titre Goma. On serait cru sur une radio ailleurs.
C'est ça.
Voilà.
Et bien, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine de 22 à 23h sur l'antenne de Canu.
On vous fait des bisous.
Des bisous. Bon courage. Ciao.
Salut.
Au-dessus d'elle, le ciel.